Vous êtes sur RTL.
Et c'est avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre.
Bonjour Dominique, bonjour à tous.
Après 2 ans d'épidémie, ce n'est pas encore le bout du tunnel, mais si on écoute le gouvernement, ça y ressemble.
Le Premier ministre a dévoilé hier soir le calendrier de la levée des restrictions à partir du 2 février, fin des jauges, du masque à l'extérieur et du télétravail obligatoire. Vous en faites peut-être partie. Depuis 2 ans, plus d'un tiers des Français ont réalisé un projet immobilier. Les confinements sont passés par là. Dans ce journal également, une rencontre sous tension entre les Russes et les Américains. Alors que la menace d'une guerre plane aux portes de l'Europe. Et puis le football et l'immense déception des supporters algériens favoris tenant du titre et éliminés de la Coupe d'Afrique des Nations au premier tour.
Et puis juste après le journal, notre invité, le docteur Frédéric Salmane, médecin, auteur de livres à succès. Son dernier vient de sortir. Il s'est inspiré des religions pour trouver une multitude de conseils qui vous permettront de vivre mieux, heureux et en bonne santé. Il sera avec nous dans une dizaine de minutes.
RTL Matin.
Mais avant d'évoquer tout ça, direction les États-Unis, Alexandre, où un avion a été contraint de faire demi-tour en plein vol.
Il avait décollé de Miami la nuit dernière, direction Londres, 129 passagers à bord et surtout l'un d'entre eux qui refusait de porter son masque, Gauthier Delon-Bugard.
Oui, les télés américaines s'en font l'écho. Après 2 heures de vol, le commandant de bord annonce aux 129 passagers que l'avion va faire demi-tour. Personne ne comprend alors ce qui se passe, hormis les membres d'équipage. Le vol 38 d'American Airlines repart donc à Miami. La police fédérale attend au pied de l'avion. Tout le monde doit descendre. Les agents viennent en fait appréhender une femme qui a refusé de porter son masque. Tout ça pour ça, s'emporte cette passagère interrogée par la télé américaine. C'est rageant, nous dit-elle. On ne pouvait pas croire que c'était juste une histoire de masque. Ils nous ont dit qu'il y avait un incident majeur avec un passager et qu'il fallait faire demi-tour. La cliente a été placée sur la liste interne de refus de la compagnie. Elle ne pourra donc plus prendre l'avion en attendant une nouvelle enquête. Pourquoi faire demi-tour pour un masque? Pourquoi une telle sanction? Eh bien, depuis un an, c'est la règle. Une politique tolérance zéro est appliquée dans les compagnies américaines envers les passagers qui refusent de porter le masque parce qu'il y a eu trop d'incidents, de nombreux cas de violence précédemment. L'avion est donc ce matin toujours à Miami alors qu'il devait atterrir aux alentours de 9h30 à Londres.
Les explications de Gauthier Delon-Bugard pour RTL.
En France, le nombre de contaminations toujours au plus haut, mais le gouvernement promet des jours un peu plus heureux.
425 000 nouveaux cas recensés hier en 24 heures, mais le taux d'incidence est en baisse dans les régions touchées en premier par la vague Omicron. Le Premier ministre Jean Castex s'est exprimé hier soir pour dévoiler le calendrier de la sortie de la crise.
À compter donc du mercredi 2 février, tous les équipements, notamment sportifs et culturels, qui accueillent du public assis pourront retrouver un fonctionnement à pleine capacité, sans jauge, en respectant cependant l'obligation du port du masque. À cette même échéance, le télétravail ne sera plus obligatoire, mais restera recommandé en laissant aux entreprises le soin de maintenir le bon niveau dans le cadre de leur dialogue social interne. Le port du masque ne sera plus exigé en extérieur. À compter du mercredi 16 février, nous lèverons les autres mesures. La consommation dans les stades, les cinémas ou les transports sera à nouveau autorisée. Les concerts debout et la consommation debout dans les bars pourront reprendre. Les discothèques pourront rouvrir.
Jean Castex, hier soir, qui a également annoncé l'entrée en vigueur du pass vaccinal à partir de lundi prochain, à condition quand même qu'il soit validé par le Conseil constitutionnel. Sa réponse est attendue dans la journée.
La cote de popularité de l'exécutif à présent en chute libre, Alexandre, à moins de 3 mois de l'élection présidentielle.
Moins 6 points pour Emmanuel Macron à 38%, moins 7 points pour Jean Castex à 36% d'opinion favorable. C'est le résultat de notre dernier sondage BVA Orange pour RTL, conséquence sans doute de la série de polémiques entre les propos du chef de l'État qui veut emmerder les non-vaccinés ou encore les vacances à Ibiza du ministre de l'Éducation nationale. Cette semaine, Valentin Boisset est parti à la rencontre des habitants d'Orléans, rue de la République. Et hier, il avait donné rendez-vous aux auditeurs dans un bistrot.
Oui, au détour de mes cafés arrive l'expression de président pansement. Autrement dit, il faut reconstruire. Michel, un infirmier, s'assoit en premier. Il faudra commencer, selon lui, parce que la crise a mis en exergue.
Le nombre de crèches, le nombre de personnes qu'il faut dans les hôpitaux, qu'il faut dans les EHPAD, qu'il faut dans les commerces, qu'il faut partout, c'est aux gens de le décider, ça. Il y en a plein qui disent « ouais, mais la politique, on en a marre », etc. Et en même temps, ils font plein de constats politiques.
À ses côtés, Jean-Yves tient à compléter, lui, les patrons d'hôtels.
« J'ai jamais vu autant d'argent dépensé, surtout quand on n'en a pas. Il va bien falloir le payer, donc je pense que ça sera surtout les générations futures qui vont le payer, parce que ça sera juste une ligne de crédit en plus qui sera rajoutée à la dette. »
Les services publics, l'économie, mais ce n'est pas tout. Valérie travaille dans un EHPAD d'Orléans. Elle est venue me rencontrer à la demande de ses pensionnaires.
Ils m'ont dit « Valérie, vas-y, vas-y, pour lui parler de nous, puis de ce qu'on vit en ce moment. »
Le sentiment de solitude persiste là où elle intervient avec son lot de détresse psychologique. Un enjeu qu'elle estime absent des débats.
Alors évidemment, il y a les seniors qui ont été très impactés. Et peut-être justement, dans ces élections, il faudrait qu'on remette au cœur du débat des sujets nobles, le lien social.
Au même moment, sa voisine de 80 ans sourit.
Vous pensez que ça va aller mieux ?
J'espère, c'est tout.
Car la tâche sera compliquée, mais quel que soit le résultat en avril, le futur président devra tenter pour elle de panser les plaies de ces derniers mois.
7 jours, 7 reportages signés Valentin Boisset, une série RTL en partenariat avec La République du Centre. Un nouvel épisode à découvrir demain matin.
Alors, on entendait il y a quelques instants les attentes des soignants d'Orléans dans le reportage de Valentin Boisset. L'espoir à présent du personnel de cardiologie pédiatrique d'un hôpital de Bordeaux.
Depuis 10 mois, ce service accueille Rémi, un petit garçon de 11 ans qui souffre d'une insuffisance cardiaque. Seule chose qui le maintient en vie, il est relié en permanence à un cœur artificiel dans l'attente d'une greffe. Les soignants ont participé au clip d'une chanson pour sensibiliser le grand public à ce sujet, Denis Grandjoux.
Le cœur partant, je t'attends. Je suis toujours, toujours un battant.
Cette chanson-là a été faite rapidement.
Laetitia, la maman de Rémi.
C'est un beau message d'espoir et de solidarité.
C'est sûr qu'on a voulu toucher les gens, mais sans rendre la chose quand même dramatique.
Émilie et Mélanie sont infirmières, elles ont fait des chœurs, tout comme les médecins du service, qui ont chanté eux aussi. Depuis son lit, Rémi a apprécié cette belle production.
Pour l'instant, tout le monde m'a dit qu'il était bien. Ce qui me plaît le plus, c'est quand on me voit courir et tomber quand je suis petit, parce que c'est drôle.
On sait que nous, la sortie de Rémi dépend du malheur d'une autre famille, donc c'est aussi quelque chose de compliqué à admettre.
C'est difficile, mais il faut essayer de faire des dons d'organes plus souvent.
Dans quelques semaines, Rémi fêtera ses 12 ans et il sait exactement comment il le fera, fidèle au titre du clip qui lui est consacré, Le cœur battant.
Le cœur partant, je t'attends.
Et si vous voulez découvrir ce clip en version vidéo, rendez-vous dans le JT du 12:45 de M6 pour la version télé de ce reportage signé Denis Grandjoux.
RTL, 6h08 à présent. La menace d'une guerre aux portes de l'Europe jour après jour. La tension monte à la frontière ukrainienne.
C'est le sujet de notre brigade RTL. Russes et Américains ont envoyé leurs représentants en Suisse pour tenter de désamorcer la crise. Toute violation par la Russie de la souveraineté territoriale de l'Ukraine nous ramènerait à une époque bien plus dangereuse et instable, a déclaré le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, une référence à la guerre froide. Bonjour Julien Fautra.
Bonjour.
Quelle est la réalité de la menace ?
Il y a déjà des manœuvres prévues dans toutes les mers du monde, Arctique, Atlantique, Pacifique, Méditerranée. 140 bateaux déployés, 10 000 hommes, ce ne sont que des exercices certes, mais une façon pour Vladimir Poutine de montrer ses muscles et sa détermination. Autre pièce du puzzle, il y a des dizaines de milliers de militaires russes en attente à la frontière avec l'Ukraine, notamment des snipers qui tirent et abattent des soldats ukrainiens en fonction de l'intensité que la Russie veut mettre sur l'opinion publique ukrainienne. Et puis, les Américains accusent déjà Moscou d'avoir introduit des dizaines d'hommes en Ukraine, des agents des services secrets, pour qu'ils provoquent un incident, c'est-à-dire créer de toutes pièces un prétexte à une intervention des troupes.
Et alors, si la Russie attaque, Julien, que feront les Américains ?
Le message à ce stade est celui de la fermeté. Donc, si on suit la logique du secrétaire d'État américain d'un retour de guerre froide, Washington est prête à engager des hommes. La Maison-Blanche promet une réponse rapide, sévère et unie des États-Unis et de leurs alliés en cas de franchissement de la frontière de l'Ukraine par les forces militaires russes.
Bon, et la France dans tout ça, elle serait impliquée ?
Et ben par le UNI, ce qu'il faut comprendre, Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, se contente à ce stade d'une mise en garde, ne pas diviser l'Europe, bloc de l'Est contre bloc de l'Ouest.
Mais Julien, la France, est-ce qu'elle est prête à intervenir ?
J'ai pas de réponse. Ce qui est certain, en revanche, c'est que dans la tête des militaires français, des sanctions économiques dans nos relations commerciales avec les Russes ne suffiraient pas. 1. Faire front Politiquement, le chef de l'État a déjà prévenu les armées lors de ses vœux avant-hier. Le rapport de force devient le mode d'expression assumé des relations internationales. Il faut y être prêt, il l'a répété plusieurs fois, il faut y être prêt de faire front militairement. Il y a des entraînements aussi, des entraînements à la coopération à haute intensité avec les Américains, avec les Anglais, on appelle cela dans l'armée française, l'hypothèse d'un engagement majeur.
Pour terminer, Julien, ce risque de guerre, il est réel?
C'est toujours difficile de distinguer d'un côté ce qui relève des gesticulations diplomatiques, ouais, les pressions, la volonté de faire peur, et d'un autre côté, la réalité de la menace. Mais l'hypothèse d'une offensive russe est plausible. En Russie, la télévision ne cesse de diffuser des messages hostiles au pouvoir ukrainien. C'est la propagande. Le travail d'aujourd'hui en parallèle des négociations diplomatiques, c'est donc le renseignement et l'objectif de gagner la guerre avant la guerre.
La brigade RTL ce matin, signée Julien Fautra.
6h11, une fois n'est pas coutume, on referme notre journal avec une page spéciale consacrée à l'immobilier, un secteur en ébullition depuis la crise sanitaire.
Un peu plus d'un Français sur trois a réalisé un projet immobilier depuis deux ans, selon une enquête Harris Interactive pour RTL. Ceux qui ont le plus bougé, ce sont les jeunes couples franciliens, traumatisés par le télétravail et les enfants à domicile. Pendant les confinements, 34% d'entre eux ont quitté leur appartement pour s'installer dans une maison. C'est le cas du couple que vous avez rencontré, Julie Brault, une famille qui vient de déménager dans l'Essonne.
Oui, au cœur d'une belle résidence pavillonnaire, David, 40 ans, me fait visiter sa maison.
La petite, la chambre de la grande.
Avec sa compagne et leurs deux filles, ils ont emménagé en juillet dernier.
On habite maintenant dans une maison de 170 mètres carrés, avec un jardin de 700 mètres carrés environ. 4 chambres, un bureau, 3 salles de bain, enfin de l'espace quoi.
Alors David travaille toujours à Aubervilliers. En voiture, il met 2 heures pour s'y rendre. Mais il est en télétravail au moins 3 jours par semaine. Et c'est justement ce qui l'a convaincu de quitter son appartement.
Nous avons 2 enfants, donc lorsqu'il est 16h, les enfants rentrent de l'école, donc j'allais dans la chambre. Sauf que la chambre était petite, il n'y avait pas de bureau, donc j'étais assis sur le lit avec mon PC. Et c'était absolument pas confortable.
Quitter Paris pour plus de confort, plus d'espace, mais surtout un jardin, c'est ce que je préfère, me dit Adèle, l'aînée de 11 ans.
Par exemple, là, je fais un sport qui s'appelle la GRS et j'ai besoin de beaucoup d'espace pour faire, par exemple, du ruban quand je dois le lancer ou du cerceau. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique d'avoir un jardin.
Seule interrogation, est-ce que le télétravail va perdurer? Car si ce n'est pas le cas, David devra démissionner et trouver un nouvel emploi à proximité.
Le reportage de Julie Brault pour RTL.
Suivez la journée spéciale immobilier sur RTL en partenariat avec le réseau Stéphane Plaza Immobilier. Un projet immobilier en 2022, Stéphane Plaza Immobilier vous accompagne pour le réaliser.
Allez, un mot de football. L'énorme déception des Algériens dans la Coupe d'Afrique des Nations, favoris tenant du titre et pourtant éliminé hier soir. Lourde défaite face à la Côte d'Ivoire, 3-1, contre-performance qui fait le bonheur de la sélection comorienne qui participera au 8e de finale pour sa première participation à la CAN.
Les courses, elles ont lieu à Cagnes-sur-Mer, Alexandre.
Les pronostics de Dominique Cordier pour le Quintet, 6, 16, 13, 3, 5... 8 et 14, la dernière minute, c'est le numéro 5, Perle de nuit.
Merci Alexandre, on vous retrouve à 7h aux côtés.